Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour ce débat au sein du comptoir en collaboration avec le séminaire Construire l'histoire du handicap et de la surdité. Alors, je vais d'abord vous exposer un petit peu l'objectif de notre séminaire Construire l'histoire du handicap et de la surdité. Et après, il y aura une petite intervention de la représentante du comptoir. Et après, on va commencer véritablement le débat avec nos deux intervenants, Ninon Dubourg et Valentin Miquelon. Alors, le séminaire Construire l'histoire du handicap et de la surdité est né de notre volonté conjointe à Ninon et à moi en 2021 de promouvoir des échanges entre des chercheurs et des chercheuses qui étudient différentes époques et à la fois le handicap et la surdité pour croiser les regards sur les histoires du handicap et de la surdité de l'époque antique, de l'époque médiévale, de l'époque moderne et de l'époque contemporaine, et aussi de la préhistoire. Alors, l'objectif, c'était aussi de médiatiser davantage l'histoire du handicap et de la surdité, parce que ce domaine-là n'est pas suffisamment légitimé en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaire sur l'histoire du handicap, il n'y a pas non plus de master spécialisé dans ce domaine, et il y a très rarement des unités d'enseignement universitaire qui englobent ces questionnements. Voilà, et de la même manière, les personnes handicapées sont quasiment absentes des manuels d'histoire de l'enseignement secondaire, mis à part au travers des musées de guerre. Et donc, il y a urgence à produire du contenu intellectuel, des manuels d'enseignement, enfin, des manuels généraux et des synthèses nouvelles pour favoriser l'émergence de ce champ disciplinaire. Et en fait, ça fait 3 ans qu'on fait ce séminaire et les différentes communications des intervenants nous ont permis d'identifier des questions communes à toutes les périodes historiques et des interrogations transversales aux différentes catégories de personnes ayant des déficiences et aux personnes sourdes aussi. Mais aussi, le séminaire nous a permis de comprendre qu'il y a parfois des éléments de différenciation, des facteurs d'incomparabilité entre les périodes. Alors, il faut dire aussi que l'histoire du handicap, de la surdité, et on l'a étendu aussi un peu à l'histoire de la psychiatrie pour vraiment légitimer le fait que ces trois histoires-là se croisent et il y a vraiment un intérêt légitime à croiser ces histoires-là. Et pour plusieurs raisons. En premier lieu, c'est que les historiens du handicap, de la surdité et de la psychiatrie considèrent que ce sont des constructions sociales. Et donc, on partage tous un même point de vue commun là-dessus. Le second point commun, c'est le fait d'appréhender les personnes handicapées, sourdes ou psychiatrisées comme des actrices de leur histoire et de l'histoire en général. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'agentivité, d'agency, de capacité d'action autonome. Elles peuvent avoir une pensée propre qui est différente de celle des médecins, de leur famille. Elles peuvent agir, elles peuvent avoir une sociabilité, des amours, des amitiés qu'il convient aux historiens d'étudier. Voilà, alors on est parvenu à identifier une série de dynamiques transversales qui peuvent faire l'objet de comparaisons entre les différentes périodes et territoires. Premièrement, la question de la façon de nommer la différence corporelle ou psychique, la surdité, ça constitue une question transversale aux différentes périodes. Mais ça nous a amené aussi à des questions qu'on n'a toujours pas résolues, c'est-à-dire les concepts de handicap, d'infirmité, de folie, d'inclusion, d'insertion sociale, peuvent-ils être invoqués et utilisés à toutes les périodes historiques? Existe-t-il une terminologie adéquate qui permettent une comparaison transpériode et transespace? Et est-il légitime de construire une histoire qui englobe toutes ces catégories en se fondant sur une unification des catégories qui date d'une période très récente, la seconde moitié du XXe siècle. Donc on n'a pas encore vraiment résolu cette question-là. En second lieu, on a considéré que les normes légales et coutumières imposées par les acteurs dominants de chaque société constituaient un élément central de l'analyse de chaque période. En fait, c'est ce qui est quasiment le plus étudié. Voilà. En troisième lieu, il y a la question du traitement social et de la place attribuée aux divers individus handicapés, sourds ou psychiatrisés dans les sociétés urbaines, rurales, maritimes ou montagnardes. Voilà. Lors des interventions qu'on a eues, on a constaté qu'il y a une grande diversité de traitements sociaux, de valeurs sociales attribuées aux différentes catégories de personnes handicapées. Mais au sein même des catégories, il y a des sous-catégories. Il y a aussi l'enjeu du genre, il y a l'enjeu de la classe sociale. Enfin, il y a plein d'enjeux qui font qu'une personne handicapée qui a une certaine déficience physique ou est sourde ou voilà, ne va pas avoir le même statut social et la même considération parce qu'elle a d'autres attributs identitaires. Voilà, et il y a encore assez peu de recherches sur cette question-là, sur la question du traitement social véritable et sur la place sociale de la diversité des personnes handicapées, sourdes ou psychiatrisées au sein des sociétés. En général, voilà, on a un éclairage partiel de certaines catégories, de certains individus. Alors, en quatrième lieu, parmi les points communs, il y avait les croyances religieuses ou spirituelles et les institutions qui légitiment ces croyances constituent des phénomènes qui traversent toutes les périodes étudiées, du néolithique jusqu'à nos jours. En cinquième lieu, il y avait aussi le rôle et le poids des institutions au sein des sociétés. Et en sixième lieu, il y avait les sociabilités, les mobilisations collectives, qui constituent des sujets transversaux aux différentes périodes, mais ces mobilisations collectives, elles ne sont véritablement étudiées, surtout à la période moderne et contemporaine. En fait, elles sont très peu étudiées pour les périodes précédentes. Voilà. Donc, j'ai terminé pour la présentation du séminaire Construire l'histoire du handicap et de la surdité. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en ligne. C'est gratuit et il est possible d'y assister soit en présentiel, soit en distanciel. Et c'est organisé environ une fois par mois, le mardi, de 17h à 19h. Hein, et c'est interprété en langue des signes avec ces magnifiques interprètes. Maintenant, je vais passer la parole à la représentante du comptoir.
Bien, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, dans cet espace de rencontre et de débat. C'est une petite histoire, mais qui a fait boule de neige, c'est qu'on s'est aperçu, puisqu'on a une espèce de librairie, c'est pas vraiment une librairie, mais ça y ressemble, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de publications sur le handicap. On a fait une table, on a créé une table et vous verrez, il y a pratiquement 30 à 40 publications sur le handicap. C'est très large puisqu'on emploie ce terme pour plein de personnes, de citoyens. Ça va de l'autisme à la personne aveugle, etc. Donc vous pourrez voir et on s'est dit qu'avec la création à l'École des hautes études, l'édition à l'École des hautes études de la revue Alter, il était temps d'ouvrir cet espace qu'on appelle le forum au handicap. Donc ça a été la première raison pour laquelle on a organisé cette soirée. Et ensuite est arrivée la publication des Nouvelles d'archéologie, qui est une revue de, on va dire, grand public, mais très éclairée, que sont des grands archéologues qui écrivent dedans, sur le handicap. Et alors là, ça, moi, m'a complètement fascinée, la cécité au Moyen-Âge, la surdité au Moyen-Âge, comment c'était possible d'en rendre compte. Et donc, voilà comment le cycle a démarré. Ensuite, votre séminaire, le séminaire de l'École d'Hautes Études et de Andrea, que j'avais déjà un peu repéré quand même, est arrivé en disant, bon, on va faire quelque chose de commun. Alors, je vous remercie très profondément d'être là ce soir. Et donc, après le débat, les discussions, vous intervenez comme vous voulez. Il y aura un petit pot juste à côté. Voilà, pour vous remercier et pour échanger encore. Je vous remercie tous. Merci, Andrea.
Merci beaucoup. Alors, je vais avoir le plaisir de poser des questions à nos deux intervenants. Valentin Miquelon, qui est postdoctorant au CRAM à l'Université de Caen et qui travaille sur les léproseries médiévales. Et ainsi que Ninon Dubourg, qui est postdoctorante à l'Université de Liège et qui travaille sur les pratiques religieuses sur les personnes handicapées, des personnes handicapées du XIIe siècle au XVe siècle en Europe. Et donc, je vais avoir le plaisir de poser une série de questions et vous allez pouvoir répondre à chaque fois si vous trouvez que les questions sont pertinentes. Alors, quelles sont les maladies et les infirmités que les archéologues peuvent documenter ? Merci beaucoup. Alors déjà, bonjour à tous. Alors en fait, en archéologie, donc moi je suis archéoanthropologue, donc je travaille spécifiquement sur les restes humains qu'on découvre en contexte archéologique. Et c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à identifier, donner une identité, à s'intéresser à l'identité de ces individus, donc travailler sur l'âge, le sexe et également sur l'état sanitaire, puisque le corps enregistre tout un tas d'informations, et notamment sur l'état de santé des personnes qu'on va découvrir en contexte archéologique. Alors en fait, on est assez limité du point de vue squelettique, puisque généralement, dans 99% des cas, hors momies, on n'a affaire qu'à des tissus durs, c'est-à-dire les os et les dents. Et en fait, même si l'os, c'est plastique, c'est-à-dire qu'il va répondre à différentes atteintes, soit en formant de l'os, soit en détruisant, en étant détruit par certaines atteintes, ou alors des modifications dans le cas de traumatismes, de fractures par exemple. Et là, les atteintes qu'on va identifier, ça va être vraiment de l'ordre de la formation osseuse ou de la destruction osseuse. Et à partir du schéma d'ensemble, du paysage, on va pouvoir attribuer éventuellement les lésions à une pathologie. Parce qu'en fait, c'est très très rare, il y a très très peu de pathologies qui laissent des traces spécifiques, caractéristiques sur les os. La lèpre en est une, c'est pour ça que j'ai travaillé dessus notamment, parce qu'elle est identifiable, parce qu'elle a vraiment un schéma particulier, et comme c'est une maladie qui évolue très lentement, elle va avoir le temps d'attaquer le squelette. Mais par contre, il y a d'autres maladies qu'on ne va pas voir du tout uniquement par l'atteinte des os, puisque les individus vont mourir trop rapidement. C'est-à-dire que en cas de peste, vous allez mourir en 24 à 48 heures et le squelette ne sera pas atteint. Donc en fait, visuellement, nous, quand on va étudier le squelette, ce qu'on appelle le paradoxe ostéologique, donc le paradoxe des os, si on veut. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des individus qui vont être morts de certaines pathologies, mais en fait, du point de vue archéologique, juste macroscopique, on ne va pas avoir l'impression qu'on a un individu malade. Et donc, pour identifier ces pathologies-là, il nous faudra vraiment des approches complémentaires, telles que la génétique ou l'étude des protéines laissées par les pathogènes dans les os, globalement. Ninon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur notamment les autres restes matériels en fait, que les archéologues et les historiens peuvent retrouver sur les périodes médiévales, modernes, en fait, et qui peuvent permettre de documenter à la fois l'expérience de vie des personnes infirmes et aussi l'existence de ces personnes.
Bonjour aussi à toutes et à tous. Merci Gildas pour la question et merci d'avoir commencé à répondre, Valentin. Je voulais juste rajouter aussi sur les restes, quelque chose que moi je trouve très intéressant, c'est les restes qu'on va pouvoir trouver sur les dents aussi de certaines, par exemple du mercure ou des substances qui ont pu être aussi consommées pour des raisons thérapeutiques, merci. Y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur les restes humains et je trouve ça fascinant. Mais effectivement, je suis plutôt historienne, donc j'ai plutôt l'habitude des manuscrits qui sont dans un certain sens aussi des traces physiques, même si voilà, on ne les retrouve pas, pas vraiment dans la terre, mais plutôt dans les bibliothèques. Donc je me suis plutôt intéressée aux traces qu'on peut trouver dans les manuscrits, que ce soit les enluminures, hein, les dessins. Il y en a dans l'article que j'ai coécrit avec Megan Kateb, que pas mal d'entre vous connaissent bien. K-A-T-E-B, pardon. Aussi des traces plutôt encore en élévation des bâtiments, ou des traces de bâtiments en tout cas, d'institutions qui ont existé également, et où les personnes pouvaient soit se réunir, soit être soignées, évidemment dans le sens médiéval, hein, de soigner, qui n'est pas de la chimiothérapie, mais qui est de prendre soin, vraiment dans la définition première du mot. Est-ce que ça répond à la question ?
Oui, ouais. Merci.
Mais du coup, en fait, quand j'ai été contactée par Valérie Delattre, qui coordonnait le numéro, elle m'avait donné, je l'ai noté, des traces pas visibles sur le seul squelette, donc ce qui laissait beaucoup de place à l'imagination. Voilà.
Mais je pensais aussi aux différentes prothèses ou aux béquilles qui peuvent être trouvées dans des contextes archéologiques ou dans des musées, parce qu'ils ont fini dans des musées. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu ? Est-ce qu'il y a beaucoup de zones archéologiques où on en retrouve ? Ou alors est-ce que c'est très rare ? Est-ce que c'est surtout dans les musées ?
C'est pas évident de retrouver des traces physiques. On en a pas mal pour les régions, les périodes qui sont plus anciennes, pendant l'Égypte notamment, la période d'Égypte ancienne, ou les époques grecques et romaines, où on peut en retrouver des faux yeux, par exemple, de verre, qui étaient utilisés pour des raisons cosmétiques, hein, on comprend bien. Et aussi, voilà, des aides à la mobilité qui pouvaient, qu'on retrouve beaucoup dans les images. Hein, voilà, on en a une ici, hein, sur la couverture du numéro de la revue. Et on peut en trouver aussi des exemples matériels, ou plutôt des cannes, ou alors les preux notamment, ils utilisaient beaucoup, alors je sais plus le terme en français, des béquilles à main, voilà, des petites béquilles à main. Donc ça, il y en a par exemple à la Welcome à Londres, du 18e siècle, donc assez tardif. Donc c'est assez rare pour l'instant d'avoir trouvé des traces matérielles de ces éléments-là, notamment parce qu'ils sont en bois. Et donc, tu confirmeras, c'est pas quelque chose qui se conserve très bien. Donc voilà, on en a en général perdu la trace. On peut en trouver encore dans quelques musées d'institutions médicales, plutôt dans le nord de l'Europe, à ma connaissance, où on va, voilà, trouver des cannes ou des chariots qui ont été utilisés par les personnes. Donc il y a des traces matérielles, mais pour l'instant, il y a encore du travail à faire.
Ouais, j'ai l'impression que la société a encore prêté peu d'attention à ces traces matérielles, y compris sur le XXe siècle, où il y a beaucoup d'objets dans les institutions éducatives qui ont servi à l'éducation des aveugles, mais aussi, moi j'ai retrouvé des objets qui servaient à faire des tests psychologiques sur les élèves pour déterminer leur orientation professionnelle. Il y a beaucoup de choses, et en fait, elles ne sont pas mises en valeur, parce qu'en fait, en France, il n'y a pas encore de musée sur l'histoire du handicap. Voilà. Et je pense que ça vaudrait vraiment le coup que la société tout entière y réfléchisse.
Et aux États-Unis, ils ont des musées sur justement l'histoire du handicap, mais ça va commencer avec vraiment la médicalisation au XVIIIe siècle, où on va garder des instruments médicaux, mais voilà, c'est un peu prendre le handicap aussi comme une situation médicale et un peu uniquement dans cet aspect-là. Donc il y a des très belles recherches qui sont faites sur les sourds par Jaipred Virdi notamment, V-I-R-D-I, sourd, où elle va travailler sur les instruments qui étaient utilisés pour augmenter le son. Mais voilà, c'est assez, c'est une période plutôt récente, on va dire. Donc sur les périodes plus anciennes, c'est bien sûr une question de méthode aussi et de temps à consacrer à ces recherches qui existent de plus en plus, hein, qui trouvent leur place, mais voilà, où il y a encore beaucoup de choses à faire.
Et est-ce que le regard justement des archéologues a évolué, et des historiens aussi, j'ai envie de dire, sur les, justement sur les traces observées sur les sites archéologiques voilà, au cours des dernières décennies? Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement de posture et d'appréhension justement des découvertes archéologiques?
Alors en archéologie, il ne faut pas oublier que c'est une discipline en fait assez récente finalement. La professionnalisation réellement de l'archéologie, c'est 2003 finalement. Donc en très peu de temps, en 20 ans, on a une évolution assez importante. Dans un premier temps, il a fallu surtout établir des référentiels, des corpus, commencer à étudier ces populations, dont dans un premier temps, on a identifié des individus qui présentaient des traces de pathologie et ils étaient vraiment étudiés comme des cas particuliers. Et maintenant, on arrive à un moment où effectivement, on commence à avoir suffisamment de données pour pouvoir avoir une réflexion plus globale. Il y a aussi l'émergence de nombreuses nouvelles approches, dont je parlais tout à l'heure en génétique, mais c'est aussi le cas en imagerie. Où il y a de plus en plus l'utilisation des scanners médicaux notamment, donc qui permettent de rendre visible l'invisible, de restituer la présence de tissus mous qui ont disparu, puisque certaines prothèses en bois dont on parlait ont disparu, par exemple, l'endocrâne, l'intérieur de la voûte crânienne, qui a disparu quand on retrouve l'encéphale. Aujourd'hui, on va restituer cet encéphale numériquement après avoir fait un scanner et on va pouvoir voir si il y a des conformations de l'encéphale qui sont compatibles avec certaines pathologies en travaillant notamment avec des neurochirurgiens. Donc, il y a vraiment une évolution de la façon de faire. Et donc, on est passé d'une vision de cas particulier à vraiment une vision beaucoup plus globale aujourd'hui, parce que maintenant, on a les référentiels et le retour, le regard et le recul nécessaire.
Si je peux enchérir dessus, du point de vue de l'historien, c'est assez la même chose. Et d'ailleurs, souvent, quand je suis invitée à présenter mes recherches, il y a souvent des personnes qui viennent après qui me disent « Ah oui, il y a aussi l'abbé de Saint-Michel qui était... » Et alors, oui, mais on a des histoires individuelles qui sont plus connues, mais c'est effectivement vraiment quand... Et c'est pour ça qu'on utilise ce terme anachronique de handicap, je pense, beaucoup, parce que ça nous permet de changer la focale et de vraiment essayer d'avoir en tout cas une vision plus d'ensemble, moins individualiste, mais plus sur un phénomène de société, finalement. Comment la représentation, mais aussi la vie quotidienne, les solidarités, comme on parlait tout à l'heure. Et effectivement, le métier d'historien, c'est aussi de réussir à prendre ces histoires individuelles, à les traiter les unes avec les autres et à essayer d'en tirer des leçons un peu plus larges. C'est pas toujours évident, si je peux me permettre, je trouve ton article qui est donc dans la revue très éclairant parce que tu prends plusieurs cas et je trouve ça assez éclairant aussi de faire des études de cas et d'en tirer des conclusions et en les mettant les unes à côté des autres de voir ce qui en ressort. J'ai trouvé ça une très bonne approche.
En fait, pour compléter, parce que ça va effectivement bien avec ta question, c'est l'idée de l'article, c'était aussi de montrer justement que de faire un état de l'art, de montrer qu'en fait on a un état de connaissance très différent d'un site à l'autre, parce que la Normandie sur laquelle j'ai placé la focale dans cet article, c'est la région pour laquelle on a le plus de léproserie fouillée, ayant livré des restes humains. Et en fait, on a vraiment une léproserie pour laquelle on a un cimetière complet qui a été fouillé, donc 200 individus. Donc après, on peut se poser aussi la question de la représentativité de ces 200 individus. Et malgré tout, c'est le site en France pour lequel on a le plus d'individus qui ont été fouillés et pour lequel ça recoupe une période entre le 11e et le 15e siècle. Donc on a 200 individus. Pour d'autres léproseries dont j'ai parlé, on a 20, 50 individus et c'est le maximum. Donc en fait, on sait finalement assez peu de choses, et même cette léproserie, la mieux documentée, est-elle représentative de toutes les léproseries médiévales telles qu'elles fonctionnaient ? C'est ça la question. Donc c'est vraiment pour ça qu'on en est au début une histoire d'une connaissance et d'une démarche assez exaltante à entreprendre. Quoi.
Merci beaucoup. Alors, j'ai encore une question, mais on va attendre le switch d'interprète. Et alors, peux-tu nous en dire plus sur la composition sociale justement des personnes enterrées dans ces léproseries médiévales, notamment celle de Caen, enfin voilà, celle de...
Alors c'est une vaste question, parce que en fait on a... C'est probablement un panel assez large de situations, dû aussi bien en termes d'organisation de ces institutions que des personnes accueillies. En fait, je pense qu'il n'y a pour l'instant pas de règles communes, de règles générales. Ça dépend véritablement des capacités financières des institutions, du regard des contemporains sur ces institutions et sur les malades. Donc en fait, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose du point de vue archéologique. Du point de vue textuel, on a des informations, mais là aussi, la question de la représentativité de ces sources se pose. Du point de vue archéologique, en fait, moi, je suis parti du postulat qu'on n'en savait pas grand-chose. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'à partir des eaux, j'étudie l'alimentation des gens. C'est-à-dire que la composition chimique des eaux reflète celle de votre alimentation. Et je me suis posé la question, comme l'alimentation, c'est un marqueur social très important, est-ce que ça peut nous permettre de mieux comprendre qui étaient les personnes enterrées à différents espaces ? Est-ce qu'il y a que ce soit pour des questions sociales, thérapeutiques, est-ce qu'il y a des différences alimentaires qui s'opèrent ? Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que sur la léproserie de Tours que j'ai étudiée, les individus qui étaient enterrés dans la léproserie ont une alimentation qui est assez proche de celle qu'on observe pour les individus, les populations les plus privilégiées de Touraine, que j'ai pu étudier par la même façon de voir. Et ce qui était assez contradictoire, finalement, avec une première regard un peu hollywoodien qu'on pourrait avoir sur ces populations, qui seraient dépeintes comme des parias, alors qu'en fait, nous, on a des individus qui ont une alimentation qui correspond aux populations monastiques locales, les populations les plus privilégiées. Donc après, est-ce que ces 50 individus sont représentatifs ? Non, il y a des informations à prendre en compte. Là, sur cette léproserie, je n'ai travaillé que sur des individus qui étaient enterrés dans un espace privilégié justement de cette léproserie, puisqu'à l'intérieur de la chapelle, et on n'a pas de squelette à l'extérieur parce que les bombes de 1944 et les travaux urbains postérieurs ont détruit le cimetière extérieur de cette léproserie. Donc en fait, il faut amorcer les mêmes études sur d'autres sites. C'est ce que je fais aujourd'hui dans mon postdoctorat en faisant ce type d'analyse sur cette léproserie pour laquelle on a 200 individus en Normandie. Et donc là, j'ai les premiers résultats, mais je ne peux pas vous donner la finesse. Donc en fait, c'est vraiment pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. On a des informations par les sources historiques et textuelles qui nous montrent qu'on a visiblement une diversité de situations. Maintenant, il faut le confirmer archéologiquement. Et surtout, les sources historiques peuvent avoir ne s'intéresser qu'à une partie de la population et pas forcément les parts les plus défavorisées, qui sont généralement absentes. Et c'est aussi en ça que l'archéologie va apporter, pas en s'opposant aux sources historiques, mais en complétant les sources historiques, en apportant un panorama plus complet par ces nouvelles approches notamment. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question.
Parfait. Et donc, dernière question. Quel était justement le traitement social des lépreux ? Est-ce que tes recherches t'ont amené aussi à approfondir le regard historique qui était mené dessus ? À partir de ce que tu as observé en archéologie, est-ce que ça t'a permis de revisiter un peu ce traitement social ? Ou alors est-ce que ce que tu as découvert en archéologie t'a plutôt permis de confirmer et de consolider ce qui avait été déjà attesté par l'historiographie ?
Alors pour l'instant, moi, du point de vue archéologique, ça m'a finalement surpris de voir pour la population de Tours que j'avais une population qui correspondait plutôt à un mode de vie privilégié, en tout cas du point de vue alimentaire, si on caricature pour résumer. Donc ça pouvait paraître surprenant parce que pour les sources locales, cette population n'était pas aussi privilégié du tout. On a plutôt l'impression d'une population qui va souffrir de temps en temps de manque de nourriture, qui va être affamée, qui va devoir écrire au roi pour demander, s'il vous plaît, on a besoin, et au corps de ville de Tours pour dire on a besoin d'aide alimentaire parce qu'on ne s'en sort pas. D'une façon plus générale, ce qu'on sait des léproseries, c'est qu'il y a deux visions antagonistes qui sont présentées. Il y a la vision, ces individus sont exclus parce qu'on en a peur, parce qu'on les rejette. On sait par les sources historiques qu'à certaines occasions, on peut même leur attribuer, comme à deux populations, notamment aux Juifs, d'être responsables de polluer, de vouloir empoisonner les locaux. Donc dans des moments de crise, on a visiblement un rejet qui peut s'opérer par moment. Mais on a aussi une volonté d'accueillir, de prendre en charge ces malades, et on les exclut symboliquement en partie du monde, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rites d'accueil, d'entrée dans ces institutions qui vont les soigner, qui peuvent par moments s'apparenter au dernier sacrement, tout simplement. Mais en même temps, ces individus ont le droit de sortir de l'institution. Ils peuvent aller faire le marché, et donc ils sont à la fois rejetés. Donc on est vraiment dans une attitude ambiguë, ambivalente en fonction des périodes. Et il y a un moment, à partir de, on va dire, du XIIIe siècle, où il y a, même un petit peu avant, une vision positive du lépreux. C'est-à-dire que le lépreux, en fait, il a un petit peu un aspect de relique vivante. Donc, parce qu'il est dans une figure rédemptrice. Il est un peu vivant, il vit un purgatoire terrestre. Donc, il y a quelque chose de saint, de sacré. Et donc, on va avoir aussi des populations, des individus qui ne sont pas malades, qui vont vouloir rentrer en léproserie pour se rapprocher de ces reliques vivantes, ce qui peut même poser un problème, parce que des malades pauvres vont par moments avoir du mal à être accueillis en léproserie parce que des riches non malades vont vouloir se rapprocher de ce lieu sacré. Donc c'est très très ambivalent et compliqué, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller plus avant archéologiquement. Donc cet article était un peu un plaidoyer pour développons la connaissance de ces institutions.
Merci beaucoup. Alors, et toi Nino, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le traitement social des personnes aveugles ou sourdes au cours de la période médiévale?
Oui, je pense que je vais beaucoup construire sur ce que vient de dire Valentin, puisque cette ambiguïté, c'est vraiment quelque chose dans le traitement social qu'on va retrouver. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'image de la personne handicapée qui va être puni par Dieu, qui va souffrir pour expier ses péchés, etc. Donc une vision plutôt assez, on va dire, négative. Et de l'autre côté, une vision plus positive, comme le disait Valentin, où finalement le handicap est une épreuve qui va permettre de se dépasser. Et donc, il y a plein d'exemples dans la Bible. Je pense à Job, J-O-B par exemple, qui voilà, est puni par une sorte de lèpre et va devoir jusqu'à aller sacrifier ses enfants pour prouver à Dieu qu'il est un bon chrétien, qui va finalement lui rendre ses enfants et la santé. Bref, pour dire que si on suit un petit peu ces modèles religieux, qui sont évidemment très importants dans la société médiévale, bien plus importants que ce qu'on imagine aujourd'hui, ça va avoir forcément une influence également sur les représentations. Et cette ambiguïté, elle se retrouve dans les histoires comme ça, les petites histoires individuelles aussi, aussi la personne handicapée va avoir une réelle place dans cette société par le biais de la charité aussi, qui dans le concept de soins, évidemment, on pense à la charité, la caritas en latin, c'est-à-dire la réunion des chrétiens en communauté. Voilà, donc prendre soin des plus des plus faibles, en fait. C'est vraiment ça l'objectif. Et dans l'exemple du lépreux, on le retrouve beaucoup puisque c'est laver les pieds, hein, notamment des lépreux, qui est une des malades de manière générale, mais le lépreux étant le meilleur des malades, le plus représentatif des malades, parce qu'on a peur de la contagion, donc c'est un réel sacrifice d'aller nettoyer les pieds des malades. Mais c'est encore quelque chose dans la religion chrétienne qui se fait, c'est un des piliers, on va dire, de la charité. Donc le rôle social de l'infirme est très important dans la société médiévale, de ce fait-là aussi, de permettre à la personne qui va faire acte de charité d'acheter son salut dans une certaine mesure, donc d'acheter sa place au paradis, quoi, en faisant des bonnes actions. Voilà. Donc il a vraiment cette place très importante au sein du groupe des pauvres, on va dire, qui était constitué des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants. La personne infirme, pour sa visibilité, pour le coup, pour une fois, était plus facilement que d'autres groupes mis en avant pour ce rôle de charité qui était facile à prodiguer, le soin étant facile à prodiguer. Est-ce
que je réponds à la question ? Oui. Mais justement, quand tu abordes la question de la charité dans l'article, tu considères que la charité chrétienne favorise une certaine forme d'intégration des personnes aveugles et muettes grâce à la solidarité mise en place. Et moi, je me demande véritablement si on peut qualifier cela d'intégration au cœur de la vie commune, puisqu'en fait, il s'agit d'une instrumentalisation au service des autres.
Alors oui, c'est pas évident comme réflexion, parce que si on avait des gens qui avaient réfléchi à cette question, ça serait très intéressant, j'aurais des choses à dire. Malheureusement, c'est un peu adopter nos concepts et nos réflexions sur des sources qui ne s'y prêtent pas nécessairement, puisque avoir ce regard, c'est pas évident. Je pense que dans l'esprit médiéval, dans ce que j'en comprends en tout cas des textes, il est question d'intégration dans la prise en charge. Peut-être quelque chose qui est moins évident parfois aujourd'hui, en tout cas dans notre siècle.
Mais... Après, c'est parce que les textes peuvent, entre guillemets, mentir. Mmh. C'est-à-dire que la société, dès les années 70, elle avait un message d'intégration des personnes handicapées. On a adopté en 1975 une loi d'intégration des personnes handicapées. Et pour autant, la moitié des personnes handicapées étaient condamnées aux ateliers protégés, à des institutions ségrégées. Et donc, il faut se méfier aussi du discours. Et c'est vrai que je me méfie un peu de cette tendance, mais vraiment, je pense que c'est très, très régulier, en fait, qu'on a tous, y compris moi parfois, en fait, à utiliser effectivement des modes de pensée actuels et à préjuger tout le temps de manière à positiver un peu la situation parce qu'on essaye d'être en empathie avec les expériences de vie de ceux qu'on étudie. Alors que la réalité sociale peut être beaucoup plus négative et voilà.
On en parlait justement tout à l'heure. Donc c'est aussi l'ambiguïté du chercheur qui, et ça s'explique aussi par l'historiographie, donc l'impulsion, la direction qu'ont pris les recherches ces dernières années, c'était effectivement de chercher l'intégration, quoi, de pouvoir avoir des exemples positifs qui permettent de créer une communauté, de créer une histoire. Donc on a eu beaucoup cette approche-là. Après, quand dans l'article je parle d'intégration, c'est parce que l'hôpital dont je parle, qui est l'hôpital des 15-20, qui se trouve à Paris, aujourd'hui à la Bastille, mais qui était plutôt dans le quartier du Louvre à l'époque, donc qui accueillait 300 aveugles, permettait aux aveugles de rentrer avec leur famille dans l'institution. Et donc il y avait des fours, ça permettait d'avoir une vie communautaire, mais pas non plus coupée de la société, quoi. Et par exemple, j'ai aussi étudié un peu la léproserie de Liège, où les lépreux sont autorisés à rentrer avec leurs femmes, ont des serviteurs, des servants, un terme, qui sont à leur service, qui travaillent au quotidien avec eux. Donc, C'est ça qu'on parle d'intégration, c'est qu'il faut pas imaginer, parce que pendant longtemps, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on a imaginé la léproserie ou ces genres d'hôpitaux pour les personnes malvoyantes et aveugles comme des centres d'enfermement où on les cachait derrière des murailles. Alors qu'en fait, c'était pas ça, c'était un lieu très poreux. Et finalement, en voulant déconstruire quelque chose, on se retrouve à aller peut-être un peu trop loin. Mais ce qui est important, je pense, à comprendre, c'est qu'on parle d'intégration sociale parce que dans le tissu urbain, par la localisation de ces lieux-là qui étaient aux portes des villes, donc des lieux de passage, hein, on le comprend bien, et par leur rôle, souvent, on peut insister là-dessus aussi, de mendicité, hein, ces personnes aveugles, malvoyantes, lépreuses, allaient dans la rue pour quémander l'aumône. Hein, et donc, il fallait être visible, bruyant, il fallait être là où il y a des gens si on voulait avoir beaucoup de revenus, donc souvent devant la porte des églises, au moment de la messe, par exemple. Voilà, tout ça pour montrer qu'il y a cette porosité sociale et que c'est une intégration dans le tissu urbain, mais aussi familial, avec donc la possibilité de vivre en famille dans ces institutions qui n'est... Là, on a quelque chose qui est différent avec les institutions plus modernes, où c'était vraiment un enfermement plus... Enfin, qui a l'air, en tout cas, plus strict d'un point de vue extérieur.
Merci beaucoup.
Ouais, je ne sais pas, tu veux réagir, Val? Parce que en fait, oui, ça rejoint la question de la représentativité des sources qu'on a. Il est évident que si on prend l'exemple du roi Baudouin de Jérusalem qui est lépreux, son quotidien, sa réalité n'est pas du tout la même que celle du lépreux qui va mendier. Donc il y a vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, une grande diversité de situations. Et après, en archéologie. Nous, c'est justement c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour l'historien, il doit y partir d'un témoignage voir dans quelle mesure ça colle à une réalité et essayer de comprendre les intentions aussi qu'il y a derrière ce que tu évoquais. En archéologie, ça va être l'inverse. On va se retrouver face à une situation et on va se demander si elle sort de l'ordinaire. Après, on ne pourra pas savoir quelles sont les motivations. Un individu qui va être inhumé de la même façon, alors qu'on sait qu'il présente une forme de handicap, dans quelle mesure est-ce que ça témoigne d'une intégration? Il a les mêmes conditions, les mêmes pratiques funéraires, enterré dans le cimetière paroissial comme les autres. Voilà, nous, on peut dire manifestement, il n'y a aucun signe, par exemple, de maltraitance. On a éventuellement un individu qui peut avoir une vie assez longue, donc pas pareil, qui n'a pas eu de difficulté pour a priori pour manger, enfin pas plus, pas moins que les autres. Voilà, est-ce que ses contemporains l'auront aidé pour un peu régler leur compte eux-mêmes avec Dieu et être sûr de se garantir une place au paradis, ça on ne le saura pas. Nous, on peut juste dire, effectivement. Il n'y a pas de signe de rejet, de discrimination, ou alors il y en a, mais ça s'arrêtera là.
Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai que ça pose de grandes questions sur la généralisation qui est parfois faite sur les expériences de vie des personnes handicapées, ou, y compris en contexte archéologique, où il y a 15-20 ans, les archéologues très vite présupposaient à partir de la conservation d'un squelette. Effectivement, une personne amputée ou qui avait visiblement des problèmes, qui avait une forte déficience physique, elle présupposait une compassion considérable à l'égard de cette personne-là tout au long de sa vie et de l'absence de discrimination. Et je trouve que ça pose d'énormes questions. Ce n'est pas parce qu'une personne vit 60 ans avec un handicap et qu'on lui donne à manger qu'elle ne subit pas de violence ni de discrimination. Et donc ça, c'est un... Et justement, j'en profite, j'avais une autre question. C'est parce que Valérie Delattre, dans l'introduction de cette revue-là, considère que ce numéro de revue contribue à l'écriture d'une archéologie de la compassion. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Parce que moi, ça m'interroge beaucoup.
C'est une petite colle. Ça dépend de la nature des traces, en fait. Je dirais de qu'est-ce qu'on observe. Dans certains cas, surtout si on peut croiser avec des sources textuelles qui nous permettraient de confirmer que pour des individus, il s'agit de compassion. Là, il s'agit éventuellement de soins. Effectivement, on peut avoir des cas de compassion. C'est très délicat, en fait, à définir. Effectivement, c'est peut-être une vision plus, un peu plus positive des choses, mais... À partir, je pense que dans sa position, elle entend ça comme à partir du moment où il y a une prise en charge, il y a une forme de compassion. Voilà, mais après, de quelle nature et de quel degré, ça c'est l'autre question. Manifestement, il peut y en avoir une, sachant que aussi tout dépend en archéologie du contexte dans lequel on se place. Est-ce qu'on se place effectivement dans le cadre institutionnalisé comme une léproserie, comme dans un monastère, où voilà, il y a une prise en charge. Est-ce qu'on se place dans une petite communauté rurale où on n'aura pas la même organisation, pas les mêmes moyens, pas les mêmes cellules. Ça serait plutôt une cellule a priori familiale qui va prendre en charge la personne qui aura besoin d'aide pour s'alimenter, par exemple. Donc, dans certains cas, voilà, est-ce qu'on sera peut-être plus proche, effectivement, d'une compassion, d'une nécessité voilà. Donc, je vais un peu botter en touche sur le terme, quand même. Hein.
Merci beaucoup.
Pour répondre aussi... je pense que si on part de l'étymologie du mot même, qui est compassio, qui est souffrir avec, je pense qu'on peut dire que oui, parce que, en tout cas, si on suit justement cette vision chrétienne dont on parlait tout à l'heure et dont les textes nous rabâchent les oreilles en permanence, on est tous sur Terre pour souffrir, hein, du fait de Ève. Donc il y en a qui ont plus ou moins de chance, et le but étant d'arriver tous au salut ensemble, il y a un peu cette idée de corps social très fort, en tout cas à l'époque médiévale, où le corps fait corps, quoi, finalement. Et après, comme je l'entends de ce que Valérie en parle, c'est vraiment dans l'aspect solidarité, quoi. C'est-à-dire que, en tout cas, dans les sources textuelles, qu'on pense par exemple aux récits de miracles, donc qui vont raconter comment les personnes se sont rendues sur les lieux de pèlerinage, par exemple, évidemment, c'est pas un aveugle tout seul qui va faire 70 km pour se rendre au lieu le plus proche où il peut espérer avoir la guérison, mais il va y aller avec des fois leur fille, des fois leurs parents, des fois un voisin, des fois le village va se cotiser pour payer le voyage, etc. Donc on a ce type d'exemple où là on est vraiment dans le souffrir avec, dans le chercher le soin ensemble plutôt, et on sait que ces personnes-là restent itinérantes, je parle pour les aveugles notamment, sont itinérants autour de leur lieu de naissance, et donc comptent sur les réseaux de solidarité finalement assez proches de leur vie, quoi. Donc ils partent pas à la ville faire la manche, mais ils restent plutôt avec les gens qu'ils connaissent, vers leurs proches. Donc ce qui peut avoir cette idée aussi de partage de la charge que pouvait être le handicap, que ce soit au niveau affectif, mais aussi pécunier, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est cette idée d'archéologie de la compassion, moi j'ai eu l'impression en fait que c'était justement c'est cette archéologie-là qui avait été contestée par d'autres archéologues, notamment états-uniens. Je pense notamment à Lorna Tilley, qui a promu l'archéologie du Caire et qui a établi une manière d'étudier les restes archéologiques pour qualifier ou pas tel individu d'individu handicapé ou pas. Est-ce qu'on peut considérer qu'il était discriminé socialement? Est-ce qu'on peut, à partir de quels critères? Voilà. Et donc elle a établi et justement elle contestait les approches qui pour elle étaient dérangeantes car elles enjolivaient en fait la réalité, parce qu'elles se basaient sur une envie de survaloriser justement la compassion, la solidarité, et qu'elles préjugeaient souvent d'une plus grande solidarité que ce que les restes archéologiques ne pouvaient permettre de démontrer.
Parce qu'en fait, ça pose aussi la question archéologiquement de quand est-ce qu'on considère qu'un individu est handicapé ou pas. En fait, tout simplement, déjà pour un individu qui serait édenté, aura besoin de que son alimentation soit adaptée. Il sera édenté simplement parce que, éventuellement, simplement parce qu'il est vieux ou parce qu'il aura eu beaucoup d'atteintes carieuses et voilà. Et en fait, à quel moment est-ce qu'on place effectivement le fait de considérer qu'il a besoin ou non d'assistance ? Et donc après, la question de la compassion, effectivement, va au-delà. C'est déjà, on a besoin d'établir effectivement des grilles de lecture. Il y a plusieurs équipes aussi en Italie qui travaillent aussi sur ces questions avec dans quel cas on considère que voilà il y a nécessité est-ce que bah, finalement est-ce qu'un individu qui va être équipé d'une prothèse au Moyen-Âge qui va pouvoir être autonome bah, est-ce qu'il y a besoin de solidarité de compassion à l'inverse finalement.
Merci beaucoup. Alors, je vais inviter maintenant les participants de la salle à poser leurs questions. Si certains ont des questions à poser, n'hésitez pas. Non. Alors, est-ce que Ninon, tu veux nous parler un peu davantage de ton article, du contenu de l'article précisément ? Enfin, c'est vrai qu'on a survolé un peu vos articles, mais on a...
Je peux essayer, oui. Alors du coup, dans l'article donc, qui s'intitule « Témoignages médiévaux de la privation des sens, empreintes matérielles de la cécité et de la mutité à l'époque médiévale », que donc, j'ai coécrit avec Megan Kateb. Donc, vous l'aurez compris, je me suis plutôt occupée de la question de la cécité et Megan Kateb plutôt de la mutité. On avait choisi dans le titre de ne pas mettre en avant la surdité, parce qu'on s'était plutôt intéressé aussi aux personnes qui étaient non-verbales, voilà, qui pouvaient aussi inclure les communautés monastiques, par exemple, qui faisaient le choix de ne pas parler. Pour remettre un petit peu ça en avant. Donc, dans l'article, on avait commencé plutôt par s'intéresser aux différentes conceptions sur lesquelles je suis déjà revenue, en parlant de l'ambiguïté du handicap, mais aussi sur les causes, quelque chose dont on n'a pas parlé, et pour le coup, souvent l'archéologie nous aide beaucoup, puisque la cécité, comme la surdité et la mutité, peuvent être des situations de naissance, mais peuvent aussi arriver à cause d'un accident, d'une maladie, de la vieillesse, donc on essayait de traiter comme ça plusieurs exemples qui permettaient de faire un petit peu un panorama des différentes causes connues, au moins à l'époque médiévale, des maladies et un petit peu de leur conception. Je vais réussir à tourner ma feuille. Dans une deuxième partie, on va dire, on s'intéressait plus aux conséquences personnel, donc sur la vie quotidienne, donc comment les personnes finalement pouvaient vivre en étant aveugles ou muets, mais aussi un peu sourds. Un panorama, quoi. C'est toujours compliqué ces articles parce qu'on a envie de tout dire et puis on est limité. Et enfin, on avait fait une partie sur les espaces de solidarité où là, on s'était plus intéressé aux communautés de soins dont on parlait tout à l'heure. Donc, des communautés qui avaient plutôt un aspect monastique, comme on l'imagine, hein, donc qui vivaient plutôt, on en a déjà bien parlé, recluses ou en tout cas vraiment avec leur petite église, leur four, leur boulangerie, enfin voilà, comme des petites vies en communauté. Et ça, donc, existe à la fois pour les communautés de muets et les communautés d'aveugles, de la même façon qu'il y a plusieurs exemples, si ça vous intéresse, ils sont développés plus dans l'article. Donc, on avait essayé aussi d'inclure des images, mais bon, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, à la fois, donc cette image, par exemple, représentait donc un mendiant aveugle qui pouvaient se déplacer à la fois avec l'aide d'un bâton, comme on disait tout à l'heure, hein, ces aides à la mobilité, mais aussi avec un chien qui pouvait à la fois servir pour guider, hein, comme aujourd'hui encore, mais aussi à faire des tours, voilà, comme c'est dessiné dans le manuscrit, la marche du manuscrit, pour faire des tours et aider à récupérer de l'argent, donc participer à l'aumône. Je ne sais plus où je voulais aller. Et voilà, d'autres images telles... voilà, c'est un ancien plan de la ville de Paris où on voit bien que l'hôpital des 15-20 dont je parlais tout à l'heure était situé à une porte de la ville et avait vraiment était vraiment placé en avant, quoi, pour que tout le monde le voit. Et, sachant que c'était aussi un hôpital qui avait été financé par Louis IX, un des rois de France, au XIIIe siècle, et qui, du coup, peut-être aussi, voilà, c'est aussi une façon de mettre en avant la richesse du donateur qui a aidé à la fondation du lieu. C'est comme on disait tout à l'heure, la charité, dont je parlais tout à l'heure, a aussi un gros rôle social que j'ai pas forcément mis en avant et qu'on retrouve beaucoup dans les textes, si on veut critiquer les textes, où évidemment le but c'est de montrer qu'on est très généreux, très riche et qu'on pense plus aux pauvres que les autres, que son voisin, etc. Donc on est des meilleures personnes. Enfin bon, c'est voilà, quelque chose qu'ils n'ont pas inventé et qui n'a pas disparu.
Et justement, dans ton article, on voit très bien l'utilité des enluminures médiévales. Et je me demandais, est-ce que c'est vraiment un sujet qui a été étudié depuis longtemps par les médiévistes ou alors en fait, c'est très très peu étudié, le contenu des enluminures, parce qu'il n'y a pas de répertoire, il n'y a pas...
Alors les enluminures, il va y avoir des répertoires, notamment Biblissima, par exemple, de la BNF, où on prend les images et on décrit un peu, donc tu peux voir ce qu'il y a dedans. Après, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas, enfin, dans d'autres recherches que j'ai fait, c'était pas tellement les enluminures, mais celles qui se trouvent à la marge. Donc, on va imaginer l'enluminure. Donc, vous avez votre page et l'enluminure, ça va être le carré qui est dessiné à un endroit de la page. Et il va y avoir aussi des dessins dans les marges pour pas laisser d'espace vide et pour laisser libre cours à l'imagination. Et donc, c'est dans ces espaces-là, on retrouve tout un tas de petits personnages qui vont être là pour se moquer souvent des autorités. Donc, on va représenter des évêques ou des abbés en lapin, par exemple, pour dire qu'ils sont bêtes, ou en singe. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petits animaux rigolos qui prennent place. Et ça arrive très souvent que ces animaux soient représentés en situation de handicap, donc avec des béquilles ou des choses comme ça. On peut les appeler dans ces cas-là des grotesques. Bon courage. Je ne sais pas comment traduire ça. Donc, qui vont...
C'est une représentation allégorique, en fait, de l'infirmité.
Oui, qui va être un peu... Et c'est un aspect dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi très intéressant, c'est la moquerie qu'il va y avoir aussi autour du handicap. Donc la cécité en fait souvent le frais, hein, les personnes aveugles. Il y a beaucoup de contes, beaucoup dans la littérature, beaucoup de personnes aveugles qui sont régulièrement moquées, alors qu'on lit dans les textes religieux qu'il ne faut surtout pas se moquer des lépreux, des aveugles, de toutes ces personnes-là. Mais dans la littérature, on va beaucoup trouver de... voilà, ils se suivent tous, puis ils tombent dans la rivière, enfin voilà, par exemple. Donc des historiettes, on va dire, qui pouvaient être amusantes, où on voit ici peut-être justement cette forme de discrimination, on va dire, comme nous on le dirait aujourd'hui, mais qui peut être aussi une sorte d'exutoire social. Voilà, il peut y avoir beaucoup de lectures, évidemment, de ces... je suis pas spécialiste de la littérature, mais il peut y avoir plusieurs lectures de ces historiettes.
Valentin, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton article ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'idée, c'était vraiment de faire un rappel sur déjà qu'est-ce que c'est que cette maladie, expliquer pourquoi, pour rejoindre ta toute première question, pourquoi archéologiquement on la voit, parce que c'est une maladie qui évolue très lentement, donc on a le temps qu'elle laisse des traces sur les os. Et donc, on a aussi des malades qui vont vivre une très grande partie de leur vie avec cette maladie. Et donc, par exemple, quand on travaille aussi, c'est pour ça que ça m'intéresse sur l'alimentation, par l'étude chimique des os, en fait, on travaille sur de nombreuses années, parce que la composition chimique d'un os, c'est des nombreuses années d'alimentation. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que, en fait, quand je travaille sur l'alimentation de ces malades, je travaille a priori sur l'alimentation pendant le temps de leur maladie. Et l'idée, c'était de montrer justement, donc, de présenter la lèpre, un petit peu la représentation des lépreux tel qu'on le connaît au travers des sources textuelles. Donc, c'est un travail qui a été mené par Damien Jeanne, parce qu'on est aussi, t'es beaucoup d'auteurs hein, sur cet article. Après, voilà, de présenter un état des lieux, comme je le disais, des différentes fouilles de léproserie. Donc là, voilà, c'était à chaque fois un travail qui a été mené par les responsables des différentes fouilles, donc c'est aussi pour ça que la liste s'allonge en Normandie, et voilà, de montrer les apports de ces nouvelles méthodes, enfin d'une de ces nouvelles méthodes, parce que maintenant il y en a quand même beaucoup. On peut parler de l'étude des protéines, des pathogènes qu'on retrouve aussi, comme tu parlais tout à l'heure du mercure pour soigner les gens, essayer en tout cas dans une visée a priori thérapeutique de leur donner du mercure, mais aussi de retrouver les traces des pathogènes dans le tartre des dents, y compris sur des individus qui, comme je le disais tout à l'heure, étaient a priori sains. Donc, en fait, de rehausser, d'évaluer la proportion réelle de malades dans la léproserie, ce qui pose la question de la connaissance médicale de l'époque. Comment on identifie la lèpre ? Est-ce que les individus accueillis dans ces institutions étaient tous malades ? Et quelle sévérité ? Est-ce qu'il y a des filtres de sélection qui sont sociaux ? Toutes ces questions-là. Donc, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'il reste beaucoup à faire.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? Oui ?
Je ne sais pas parler dans le micro. Ça va ? Ok. Moi, ça fait une question, parce que j'ai l'impression quand même qu'on parlait beaucoup d'assignation des personnes, d'assignation à des lieux, d'assignation à des espaces de résidence, et ça prenait moins en compte la gentilité justement des personnes en situation de handicap, que ce soit en termes de maladie ou de surdité et de mixité. Et c'était cette question qui m'intéressait particulièrement. Est-ce que c'est facilement accessible ? Est-ce qu'il y a des choses à dire sur l'assignation des lieux, par exemple la léproserie ? Est-ce que c'est un lieu qu'on choisit ? Est-ce que c'est un lieu qu'on impose aux malades ? C'est ça qui m'intéressait particulièrement.
Eh ben en fait, là aussi, on est limité par les sources dont on dispose. Donc, dans certains cas, en fait, archéologiquement, on va retrouver des lépreux hors des léproseries, dans des cimetières paroissiaux. Donc, a priori, ils n'ont pas été forcés, ces individus, à l'endroit et à l'époque à laquelle ils ont vécu. Est-ce qu'au même endroit, à 50 ans d'écart, on les aurait laissés vivre au milieu de la population ? On n'en sait rien. Et inversement, est-ce que les individus en léproserie, certains ont pu être forcés, d'autres y allaient aussi parce que c'était un lieu d'assistance aussi. Donc, il y avait justement dans cette idée de charité. Est-ce que dans certains cas, pouviez juste vouloir se retirer du monde, parce que aussi la lèpre, ça induit une grande déformation hein, du visage quand il est atteint, et aussi le visage, c'est un élément assez important dans l'honneur en fait au Moyen-Âge. Donc est-ce que il peut y avoir une honte qui s'installe et donc une volonté de se retirer. Donc, je pense qu'en fait, il y a une grande variété de situations et malheureusement, ni les squelettes, ni tous les textes ne permettront pas nécessairement de saisir justement ces questions d'assignation et de même liberté de circulation de ces malades.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si je peux ajouter, en complément, je pense que peut-être le critère le plus important pour justement être assigné dans un lieu comme ça, c'est vraiment la richesse, parce que on a beaucoup de textes qui nous disent qu'entrer dans une léproserie, par exemple, c'est très coûteux. Donc on a déjà parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut bien le mettre en avant. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on va dire, des sortes de tribunaux dans certaines régions qui sont mis en place, où il va y avoir des juges, des médecins, etc., qui vont être appelés pour juger, par exemple, de la lèpre, et qui vont décider si oui ou non la personne doit rester vivre dans la société. Et il peut y avoir des aides des communes, par exemple, pour aider à payer le droit d'entrée dans ces communautés. Mais c'est, voilà, c'est quelque chose qui va être assez coûteux. Donc, il y a des gens qui sont refusés, il y a des gens qui ne peuvent pas y aller. Il y a des gens qui choisissent de vivre dans des maisons individuelles, ce qui est encore plus cher que vivre en communauté. Et donc, ça va vraiment dépendre du niveau social de la personne et de sa capacité aussi à mobiliser un réseau, sans doute, d'amis, de connaissances politiques pour rentrer dans ces lieux-là aussi. Donc c'est pas donné, quoi. Enfin, c'est pas évident. Pour les aveugles, je pense que c'est exactement la même chose, hein. L'hôpital des 15-20, il n'y a pas eu d'études vraiment d'où venaient les gens qui étaient dans ces hôpitaux-là, mais on sait que c'est des gens qui couvrent une région assez large, quoi. Et quand on voit le nombre de personnes aveugles, on se doute que c'est pas, enfin voilà, que ça ratisse plus large et qu'ils auraient pu le remplir plus facilement, enfin qu'il pourrait y en avoir plus dans le territoire, mais par rapport au nombre. Donc c'est qu'il y a un critère de sélection à un moment ou à un autre.
Ouais. Enfin, pour une période un peu plus récente, moi j'étudie un tout petit peu la fin du 19e et début 20e. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parfois il y a une forte demande de la part des personnes, certaines personnes aveugles ou sourdes ou handicapées, d'être placées en institution parce qu'elles sont sûres d'avoir à manger, d'avoir un lit, d'être chauffées. Il y a eu des études notamment sur des hospices au 19e siècle, et en fait ces études-là ont montré que parfois les hospices avaient un chauffage alors que dans le milieu rural aux alentours il n'y avait pas de chauffage, il y avait de l'eau en permanence. Il y avait des repas, alors qu'aux alentours, dans le milieu rural, il n'y avait pas autant de nourriture. Donc en fait, il faut se rendre compte qu'en fonction des lieux, certaines institutions pouvaient apporter une sécurité de vie avec des droits, avec des libertés limitées, restreintes, hein, avec des règles à respecter, mais offraient une sécurité, enfin une garantie de pouvoir survivre, alors que les personnes avaient des difficultés à survivre ailleurs. Et donc... Il y a des personnes placées de force et d'office par les familles aussi. Enfin, parfois, c'est voilà, par les familles. Mais parfois, c'est par le maire, par d'autres acteurs. Mais il ne faut pas oublier cette dimension aussi. Des fois, c'est volontaire d'être placé en institution.
Volontaire ou négocié. Ou voilà, enfin, il y a des exemples aussi de jeunes femmes qu'on place dans des monastères. Enfin, voilà, quand elles sont jeunes. Et bon, on peut imaginer que... C'est un cas qui m'avait marqué dans mes recherches. Une jeune fille qui est défigurée. Et donc, voilà, son père a pas mal d'argent. Et donc, il lui propose d'entrer au monastère. Elle demande l'autorisation à pouvoir entrer dans le monastère. Parce que normalement, les personnes handicapées ne doivent pas se trouver dans les monastères. Et donc, il y a toute une négociation aussi qui se met. Et on peut très bien imaginer que cette femme est préférée plutôt que... on peut imaginer devenir vieille fille ou quelque chose comme ça et pouvoir au final dans le monastère trouver un scriptoria où elle pouvait apprendre à lire et à écrire parce qu'on sait qu'elle sait lire et écrire, donc trouver un épanouissement que finalement elle aurait peut-être pas eu dans la société laïque où elle aurait été comparée à ses congénères qui avaient une vie qui était femme, enfin avec des enfants, qui est évidemment le but d'une femme, qui encore. Et ça peut aussi être une négociation avec la famille et avec soi et avec aussi qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces lieux-là qu'on peut ne pas avoir ailleurs.
Et puis pour rebondir aussi sur ce que tu disais, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la capacité de la société à répondre aux besoins de ces personnes à intenter. Le cas de la lèpre, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, puisque ce sont des vagues épidémiques. Donc, il y a des moments où il y a possibilité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de malades. Donc, on peut même accueillir des gens au-delà de la lèpre dans les léproseries. Mais quand il y a des pics épidémiques, Là, effectivement, la question des moyens va se poser beaucoup plus et des capacités des institutions à prendre soin de ces personnes. Et donc, par moment, c'est le reste de la société qui va aussi devoir un petit peu intervenir et pas laisser les institutions gérer cette situation et cette maladie qui peut faire peur à une partie de la population.
Après, j'ai posé sa question, mais si je peux juste dire, ces institutions-là, évidemment, elles sont... Il y en a beaucoup qui sont, par exemple, monastiques ou qui sont créés par des ordres religieux ou l'Église même séculière. Mais c'est aussi beaucoup, surtout à partir du 12e, 13e, la création de riches laïcs qui vont plus ou moins décider à qui ils vont donner soin. Enfin, voilà. Donc certains vont créer des institutions pour les aveugles, d'autres pour les muets. Voilà, il y a toujours une histoire hein, qui explique ce choix. Familiale ou plus religieuse, mais voilà, ça c'est quelque chose aussi qui vient de la population. Donc, on peut imaginer qu'il y a aussi à ce moment-là, pareil, une sorte de négociation avec la population, en tout cas un besoin à un moment d'entourer particulièrement ces personnes-là. Peut-être il y avait beaucoup de mendiants aveugles et donc on crée un hôpital pour les aveugles. Par exemple, pour pouvoir endiguer hein, ce qui peut être vu à un moment comme un problème, puisque faut bien qu'ils dorment quelque part, imaginons quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment les populations qui jouent ce rôle aussi. Donc ça joue, mais toujours avec ce rôle social évidemment de la charité, mais qui peut s'associer à de la solidarité quand même dans un certain sens. Quoi.
Oui, j'espère que je ne vais pas vous amener à des redites. C'est une question sur les frontières entre les catégories maladie, handicap et éventuellement d'autres catégories. Dans des lectures en histoire du corps, en histoire de la pensée médicale sur le Moyen-Âge, de travaux de la fin des années 90, début des années 2000, j'avais lu que dans la pensée médicale médiévale, dans les institutions charitables ou d'assistance, les catégories de malades, d'infirmes, mais aussi de pèlerins, de pauvres, de mendiants, de vagabonds, et peut-être d'autres, étaient assez indistinctes. Que le terme d'infirme lui-même renvoyait, jusqu'à une époque tardive, disons, à l'ensemble des personnes faibles. Est-ce que cette indistinction, disons, vous paraît toujours vraie ou est-ce qu'elle est un peu plus compliquée ou est-ce qu'il faudrait des catégories ad hoc pour parler de cette pensée médiévale de la frontière maladie, handicap et catégorie?
C'est une très bonne question parce que en tant qu'historienne, donc, je m'utilise plutôt les textes, donc je pense que ma réponse va être assez différente de celle de Valentin. Mais dans les textes, effectivement, il n'y a pas beaucoup de mots qui nous permettent de voir le handicap. Donc, dans les sources pontificales que j'utilise, on a la notion de défaut, par exemple, qui est assez révélatrice, où on comprend bien défaut de corps ou défaut d'esprit. Donc, voilà, on comprend bien que ça peut s'associer à quelque chose de handicap. Mais par contre, quand après ils vont détailler, on va retrouver beaucoup de termes. Ça va être infirme, débile, ou des termes de maladie plus précises, mais qui vont être assez flous dans le sens où effectivement ces mots-là, de débile, infirme, ça veut dire faible, malade, infirme réellement, hein, qui vraiment ne peut pas se déplacer par exemple. Donc c'est là qu'on a aussi une difficulté. À parler parfois à parler de handicap. Après, moi, j'ai tendance à penser dans mes recherches que du moment où il y a un critère physique ou mental qui va poser un problème pour accomplir l'acte qu'on est censé accomplir, là, on peut parler de handicap dans une situation évidemment bien spécifique et pas pour tous les cas de figure. Donc je pense qu'en ça, on peut aussi utiliser le vocabulaire à notre avantage, dans un certain sens.
Je vais compléter juste sur la lèpre, particulièrement. Parce qu'on voit aussi que malgré tout, dans les textes, il y a une évolution aussi de la connaissance médicale à l'époque. C'est-à-dire que le vocabulaire employé pour désigner la lèpre va évoluer, alors aussi en fonction des connaissances locales à chaque fois, des auteurs aussi de ces textes. Mais on voit qu'au départ, on a un vocabulaire dont je ne voudrais pas mal prononcer le mot, donc je ne vais pas le prononcer, un mot qui désigne plutôt un champ nosologique, toutes les atteintes cutanées. On n'arrive pas trop à savoir. Et en fait, au fur et à mesure qu'on retrouve dans les textes des éléments diagnostiques plus précis, on voit par exemple que dans les fameux tribunaux dont tu parlais pour savoir si une personne était lépreuse, progressivement, on va mettre en place des vérifications de la sensibilité du bout des doigts, puisque la lèpre provoque d'abord une perte de sensibilité, puisque c'est une atteinte nerveuse par la bactérie, et qui va après s'accentuer par des traumatismes et avoir des infections secondaires. Et donc, on voit dans un premier temps qu'il y a une recherche de ces signes caractéristiques et en même temps une évolution du vocabulaire qui désigne la maladie. Du point de vue archéologique, là, c'est plutôt notre grille de lecture actuelle qui va donc qui évolue comme on disait tout à l'heure, mais là qu'on va adapter, donc on va faire un peu de l'actualisme avec tout le côté positif et négatif, tous les biais que ça peut engendrer, ce qui à mon sens n'est pas grave tant qu'on a conscience de ces biais et qu'on ne s'autorise pas à aller au-delà des interprétations et des surinterprétations.
Alors, moi j'ai une question plus pour Ninon, peut-être. Oui. C'est par rapport à la charité et à la définition de la charité. Bon, la définition biblique de la charité, quelle est-elle ? Et puis, est-ce que. Alors, on fait la charité, bien sûr, pour gagner son paradis, mais qui sont les personnes qui font cette charité pour gagner leur paradis ? Parce que parfois, il y a des paradoxes dans la société. Bon, il y a des exclusions par des tribunaux. Est-ce que c'est vraiment de la charité ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec tout ça, quoi ? Et il y a une chose que je voulais dire, mais que je viens d'oublier. Ah oui. Si on travaille dans des établissements de soins et d'accueil pour les lépreux ou pour les personnes handicapées et qu'il n'y a plus de place et qu'on les exclut parce qu'il n'y a plus de place et qu'on les laisse vivre un peu à la sauvage dans la rue, est-ce qu'on peut encore parler de charité ? Donc, qu'est-ce que c'est la définition de la charité ? Est-ce qu'il y a des conditions minimum qui permettent de gagner son paradis ou pas ? Merci.
Alors, c'est pas une question très évidente parce que faut faire un mix de beaucoup de choses. Mais normalement, l'idée de la charité, c'est de prendre soin du prochain et c'est l'idée d'avoir une société qui est fonctionnelle. Je pense que derrière le discours religieux qui est du salut, il y a une organisation sociale qui s'est mise en place par la force des choses, qui est de pouvoir de prendre soin des membres les plus faibles de la société, qui va prendre une forme différente dans plusieurs religions ou dans plusieurs sociétés, mais qui est finalement un petit peu toujours là, quoi. Aujourd'hui, on a la sécurité sociale, enfin, voilà, ce genre de choses qui, je pense, compense en fait ce qui aurait pu être avant la charité. Je schématise vraiment fort, hein, mais dans ma compréhension de la charité, c'est de permettre cette vie en communauté. Et donc ça passe par le soin des plus pauvres. Après, c'est aussi ceux dans justement les textes qui sont mis en avant comme étant les récipiendaires, les récepteurs favorisés de la charité. Oui, c'est pas très clair.
je me demande s'il ne faudrait pas parler de pratiques charitables. Effectivement, restreinte en fait à une catégorie de personnes et à, ou à quelques catégories de personnes, parce qu'en fait, toutes les personnes handicapées, sourdes ou psychiatrisées ne bénéficient pas de la charité. En fait, c'est toujours délimité socialement par les acteurs locaux. Non ? Enfin, si tu n'es pas d'accord.
En fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer que dans une institution monastique, par exemple, les gens qui vont prendre soin, qui vont assister les personnes qui en ont besoin, ne seront pas des intimes, des proches, et qui peuvent le faire par pure charité. Est-ce qu'un intime qui va prendre soin de ses parents, ou alors mais aussi à l'inverse, des grands-parents et notamment des grands-mères qui vont s'occuper aussi des nourrissons, comme les nourrices, est-ce qu'elles le font pas aussi par charité, en partie? En fait, c'est peut-être aussi une question de pas de nature, mais de degré. Il y a peut-être aussi non seulement un pragmatisme, il y a peut-être une empathie, mais aussi, dans ce cas-là, et ça n'enlève rien, une part de charité. Après, quelle est la première raison pour laquelle est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est pour le salut? Est-ce que c'est pour rendre service à sa famille et à ses proches ou à ses amis? Là, on n'aura pas la réponse archéologiquement. Et nous, encore moins, quand on va fouiller la sépulture, on n'aura pas l'information, mon réseau d'amis, mon profil LinkedIn, etc. Quoi.
Je pense aussi que le sens même de charité, c'est faut pas l'entendre comme on l'entend aujourd'hui nécessairement. Il y a un don et contre-don, donc il peut y avoir une valeur pécuniaire, mais c'est aussi une attitude. Je sais pas comment le dire, mais ça va être encore pire. Ouais, c'est le care, quoi, vraiment le soin, quoi. C'est ça peut être, oui, bien sûr, la solidarité. Oui, c'est pas, enfin, faut pas imaginer qu'il y a toujours derrière. C'est, je pense que c'est vraiment intériorisé aussi dans la vie, quoi, quotidienne, que nous on met quelque chose de religieux derrière, une question qui ne se posait pas dans une société différente où le religieux était vraiment au cœur. Donc je pense que c'est difficile de dire, par exemple, si on fait un procès, alors c'est pas de la charité. Je pense que c'est de la charité, pas dans le sens qu'on a aujourd'hui de la charité, mais dans leur sens à eux, qui était de prendre soin derrière de la personne, voilà, et de la communauté dans sa totalité, quoi. Parce que exclure les gens, c'est protéger la communauté, finalement. Protéger la société dans le sens vraiment super global du truc, qui est pas tu vois.
Juste par rapport parce que effectivement on place la vision aussi, la grille de lecture charité chrétienne telle que nous on l'a, donc avec aussi notre préjugé, notre a priori sur qu'est-ce que c'est la charité chrétienne. Il faut aussi noter qu'on n'observe pas un bouleversement archéologique avec les périodes précédentes. C'est-à-dire que l'époque chrétienne, c'est pas là où on se met d'un coup à prendre soin des personnes qui en ont besoin. Tu parlais tout à l'heure des cas dans l'Antiquité aussi, même des cas préhistoriques où on a des individus dont on sait qu'ils n'auraient pas pu survivre sans être aussi pris en charge par le groupe. Donc il y a quelque chose de profondément humain, de l'ordre de l'empathie, qui dépasse aussi le cadre de la simple charité. Est-ce que après c'est pas un raccourci qu'on peut faire, en disant on sait que à l'époque chrétienne la charité est importante, donc on va, ça rentre dans le cadre, donc c'est pas grave. Mais il y a aussi une simple empathie vis-à-vis de l'autre, tout simplement aussi.
Merci beaucoup. Alors je tiens beaucoup à remercier les intervenants, Ninon, Valentin, les interprètes. Merci beaucoup. Ainsi que la représentante du comptoir pour nous avoir permis d'être ici et voilà, cette collaboration fructueuse. Et nous vous invitons maintenant à boire un verre de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup.